Alors, Dany Laferrière, c'est un entretien particulier que nous allons mener ensemble et que nous vous proposons, à vous qui êtes là, dans le cadre de ces rencontres d'Ancrer des îles, consacrées aux îles, car il nous semblait important de faire une place particulière à l'auteur, bien sûr, qui, comme les autres invités, vient d'une île, Haïti, née à Port-au-Prince en 1953, l'a quittée en juin 1976, quand lui-même critique littéraire, il apprend qu'un de ses amis journalistes est assassiné par les tontons Macoute sous la dictature des Duvaliers. On va y revenir probablement. A vécu en exil à Montréal, où il a écrit et publié toute son œuvre, je pense. Publié, peut-être pas, peut-être qu'il y a des choses qui ont été publiées ailleurs. Écrit, peut-être pas non plus, mais...
Non, publié, oui, au Québec, d'abord. Et écrit, non. Il y a une dizaine de livres qui ont été écrits à Miami.
Des allers-retours aussi avec Miami. Alors, on ne va pas tenter de résumer le contenu de tous ces ouvrages, simplement dire qu'il y a une dizaine de romans qui constituent une autobiographie américaine sur 15 ans, maintenant qui s'est un peu agrandie, peut-être.
Une douzaine.
Une douzaine, on en est à une douzaine.
Mais il y a quand même 19 livres en tout, donc chacun de ces livres-là a exigé de moi la même somme d'émotion et de travail. Donc on ne va pas résumer mes livres avec uniquement les romans, puisque je ne crois pas dans les dénominations. Pour moi, roman, essai ou n'importe quoi, c'est l'apanage de l'éditeur. Moi, je n'écris que des livres.
Ah, justement.
Donc, j'ai écrit 19 livres.
Voilà, 19 livres, dont ceci, et dont certains, on peut les retrouver d'une certaine manière par des petits clins d'œil ou des évocations de titres dans ce dernier ouvrage, L'énigme du retour, intitulé roman, justement, et qui est... À mon sens, n'en est pas forcément un, mais on pourra y venir. Le goût des jeunes filles, le charme des après-midi, l'odeur du café, les chroniques de la douceur, tout ça, c'est des choses qui sont évoquées dans tes titres et qu'on peut retrouver d'une certaine manière évoquées, comme ça, au fil des pages, dans l'énigme du retour. L'énigme du retour, Prix Médicis 2009, et c'est précisément sur ce titre et le contenu de cet ouvrage que se motive et que se fonde cet entretien. Parce qu'on y trouve, il me semble, non seulement ces titres précédents qui sont évoqués, mais surtout la quasi-totalité des thèmes qu'on aborde et des axes de réflexion qui sont proposés par les réflexions et la thématique proposé par ces rencontres insulaires, le nomadisme, la déambulation, l'île entre le paradis et la prison, l'enfer et le paradis, le va-et-vient entre le politique et le poétique, entre le continent et l'île, le sentiment d'être un étranger partout, et bien sûr le problématique retour. Alors, je propose qu'on suive ce parcours d'une manière anarchique peut-être, sans plan, comme est construit ce livre, puisque...
Je propose même qu'on fasse cette conversation sans même idée préconçue, en oubliant l'idée de l'insularité.
On va tout oublier.
Oui, oui. L'idée même qu'on me parle.
Ça peut-être pas complètement... Mais on va essayer de tout oublier et de suivre cette direction. J'ai pris la route tôt ce matin, sans destination, comme ma vie à partir de maintenant. Ça introduit ce livre, c'est après la nouvelle de la mort de votre père par téléphone. Ça déclenche un départ, plus exactement ça déclenche un retour, mais en même temps sans destination.
Oui, on va tenter de savoir de qui il s'agit, c'est-à-dire effacer toutes sortes de traces possibles. Est-ce que c'est mon père ? Et du moment que c'est écrit dans un livre, ce n'est plus mon père. Et parce que j'ai autorité d'écrire ce que je veux à partir de quelques détails, enfin vrais, si l'on peut appeler cela ainsi. Et donc je ne peux pas prendre cette charge-là de dire qu'il s'agit, que le narrateur, c'est moi. Et parce que si beaucoup des événements et beaucoup des faits qui sont dans ce livre sont vrais. Et la façon de les enfiler est tout à fait, c'est à moi de décider. Je l'ai fait en écrivant et j'ai même pas tout décidé puisque le récit lui-même a son mouvement et quand les gens disent c'est une écriture fluide, ils veulent dire, enfin moi j'entends, comme j'ai bien menti. Parce que dans la vie, ce n'est pas fluide, on ne sait pas comment ça va et comme cela. Et donc c'est ça le premier problème, c'est de qui s'agit-il? Et moi, pour faire vite, comme on a un peu de temps, et pour faire vite, j'accepte quand les journalistes me disent qu'il s'agit de moi, parce que sinon, c'est la bagarre, et parce que je suis en train de déranger leur article ou leur interview, et c'est tellement plus facile de parler de quelqu'un à quelqu'un en chair et en os et qui serait aussi le même être de papier.
Mais là, justement, on a le temps et donc c'est pas si simple.
Non. Non, parce que le narrateur, et c'est pas seulement que ce soit pas moi, mais il y a intérêt à ce que ce soit pas moi, tout à fait. Et c'est un narrateur, j'allais dire, générationnel, dans le sens que il est arrivé, cette aventure est arrivée à beaucoup de gens que j'ai connus, j'allais dire un bon cinquième de la population haïtienne, qui a subi la dictature des deux Duvaliers. Donc beaucoup de gens ont eu leur père emprisonné, tué ou exilé. Et beaucoup se sont retrouvés avec leur mère ou leur grand-mère. Beaucoup ont pris l'exil aussi plus tard. Et donc c'est une foule. Il faut voir vraiment un certain nombre de gens qui, depuis à peu près 30 ans, parcourent le monde. Et voilà, j'ai voulu faire un portrait, pas de cela, mais à partir de moi, mais j'ai voulu parler de cette situation quand même en général.
Oui, d'ailleurs, il y a un moment, je suis en train d'essayer de chercher ce passage où il est question de fleuve, de continuité justement de ces générations qui se suivent et qui ont vécu la même chose. Le fleuve humain, cette foule ruminant la chair fraîche et naïve de tous ces exilés qui espèrent retrouver dans cette énergie les années d'absence. Je ne suis ni le premier ni le dernier.
Oh ben oui, bon, il y a plein de petits signes comme ça dans le livre que les gens ont soigneusement ignoré pour que ça devienne moi. Mais il y a plein de petits signes communs qui disent que c'est une aventure commune et que beaucoup de gens ont été dans cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est peut-être le travail de l'écrivain, il y a cette première partie qui serait un portrait personnel, intime, un journal intime, où j'ai été au plus près de moi-même, sinon ça ne passerait pas à l'émotion. J'ai pas écrit un truc, c'est pas un truc global. Et puis il y a cette deuxième situation où ça peut aussi toucher des gens qui ont eu ce même destin, qui ont dû partir, et comme moi. Et puis aussi il y a, d'après moi, c'est ce que j'ai voulu le plus profondément, et qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une affaire de dictature, de voyage à partir de situations déraisonnables, politiques, je veux dire, et que cet exil de l'espace d'un point à un autre et n'est pas uniquement géographique, et qu'il s'agit aussi de l'exil du temps. Et c'est là, et je varie un peu entre l'espace et le temps, et c'est là que ça touche à beaucoup plus de gens, puisque la plupart des humains ont dû quitter l'enfance, quitter l'adolescence, et aussi s'en souviennent avec des fois beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité, et peuvent se retrouver dans certains moments dans ce livre, j'espère.
Alors, on va revenir à cette question du temps, parce que ça revient sous différentes formes, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que cette introduction, évidemment, nous fait entrer tout de suite dans l'émotion de la perte d'un père et de ce que ça provoque dans ce départ et ce retour, mais aussi nous frappe parce qu'il y a une forme inhabituelle qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on a une couverture qui proclame roman et puis qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus chez Dany Laferrière. C'est une forme en vers libre, on va dire, pas systématique d'ailleurs, avec aussi cette petite annotation qui vient assez rapidement dans le livre sur une nécessité de trouver peut-être une nouvelle manière, une forme courte, justement. Donc, je voudrais lire ce petit passage. Dès que j'ouvre la bouche, des voyelles et des consonnes se dépêchent de sortir dans un grand désordre que je ne cherche plus à maîtriser. Je me contrôle encore en m'appliquant à écrire, mais je n'arrive pas à plus d'une dizaine de phrases sans tomber d'épuisement. Je cherche une manière qui n'exige pas trop d'efforts physiques. Donc on se dit, tiens, cette forme-là, brève la plupart du temps, sur la page, hein, on peut le voir, il y a une construction qui ressemble à la forme poétique, il y a des vers. Je l'associe évidemment à cette fatigue d'écriture, on va dire, peut-être cette impossibilité de s'engager sur quelque chose de longue durée.
Oui et non, c'est... Vous savez, c'est pas... Ce qui est étonnant, c'est que cette forme soit un peu... Enfin, c'est pas très nouveau, mais ce qui est étonnant, c'est que cela étonne. Et je ne vois pas pourquoi un roman ne puisse pas être écrit comme ça. D'ailleurs, ça a commencé comme cela. Si l'on prend les grands poèmes de Homère, c'était écrit en prose, et on disait le poète Homère. Et donc, si Homère pouvait écrire en prose, ou dans des vers aussi, donc je veux dire, il y a eu aucune règle qui dit qu'on devrait écrire des romans et que ça devrait être des phrases qui aillent au bout de la page, de la marge. Et qu'on soit réduit à s'étonner d'une mise en place, et on se demande ce qu'en penserait un Apollinaire, qui a tous ces jeunes gens qui avaient voulu précisément un peu faire bouger la typo et de cela. Et ça m'a étonné. Ça veut dire que vraiment on est dans une situation un peu assoupie. Et ces dernières années, il n'y a presque plus aucune petite révolte au niveau formel pour qu'on soit étonné, à part celle d'écrire des phrases sans point ou sans virgule, pour qu'on soit étonné d'une chose aussi naturelle que d'écrire des strophes où il y a une émotion à chacune. Et que tout cela soit relié. Le roman, c'est le fait que ce soit relié, que ce soit une longue narration. Bon, et maintenant, la manière, je crois, c'est vrai qu'il y a... C'est un mélange de paresse et de fatigue. C'est un cocktail connu des gens qui sont épuisés. C'est un roman de mélange de paresse et de fatigue qui fait que je n'arrive plus à... Je m'ennuie facilement et je n'arrive plus à aller au bout, je n'arrive plus à garnir les pages, à faire de longs tunnels, je n'arrive plus à lire cela. Au fait, je me suis toujours considéré avant tout comme un lecteur. Alors j'essaie d'écrire comme j'aurais, enfin les livres, les choses que j'aurais bien aimé lire. Je lis beaucoup de livres et à chaque fois je me dis, oui, ben là j'avais compris, là c'était, l'émotion était, pourquoi il continue, pourquoi il me, oh là là. Et c'est si bien et puis là, hein. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire comme ça et m'arrêter quand ça vaut la peine. Et plutôt, selon la formule jolie de Jules Renard, il dit que je crois que la paresse, c'est la faculté de se reposer avant la fatigue. Et donc, c'est la faculté d'arrêter avant que l'ennui arrive. Et l'ennui arrive si vite, dans mon cas, oui.
Alors, c'est un roman qui part d'un parcours personnel pour aller vers quelque chose d'universel, ou en tout cas vécu par un grand nombre de personnes. En même temps, puisqu'on est dans les thématiques de l'écriture et de l'écrivain, de la forme, c'est un écrivain qui est le narrateur dans ce texte. Et donc il y a aussi des références à cette posture et cette position particulière de l'écrivain dans l'île, en exil, face à la mort du père, face à l'absence vue dans les yeux de sa mère. Il est dit par exemple, ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas écrit ainsi si j'étais resté là-bas. Peut-être que je n'aurais pas écrit du tout. Écrit-on hors de son pays pour se consoler ? Je doute de toute vocation d'écrivain en exil. Voilà, par exemple, il y a d'autres choses aussi à propos de la fatigue d'écrire. Il y a un livre qui s'appelle « Je suis fatigué » qui proclame que c'est désormais l'écriture est derrière et Dany Laferrière va passer à autre chose. Et puis, il reprend, vous reprenez. Et c'est écrit aussi dans ce livre c'est comme quand on reprend la cigarette, un petit peu avec honte et en se cachant.
Oui. Donc, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Parce que je crois vraiment que chaque livre qu'on n'a pas écrit enrichit notre œuvre. Et qu'il faut faire attention à ne pas écrire. Il ne faut pas.
Et pourtant, ce livre est là.
Oui,
ce livre est là et met en avant aussi cette position de l'écrivain face à une situation particulière, même si elle est vécue par quantité de personnes. C'est un vécu particulier.
Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que mine de rien, on ne sait pas comment ça s'infiltre en nous, dès qu'on a commencé à écrire, on a commencé à voir le monde d'une autre manière. Et on ne peut voir le monde que penché vers le bas, c'est-à-dire en lisant ou en écrivant. Et les autres regardent le monde en face ou regardent le ciel. Non, pour voir bien le ciel, il faut regarder ça dans un livre ou en le décrivant. Et donc ça crée une situation à laquelle on ne peut plus y échapper. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé et pouvoir être quelqu'un qui a perdu son père et qui va l'enterrer et qui rentre chez lui pour dire la nouvelle à sa mère. Et il me semble que c'est quelque chose de tout à fait banal qui arrive à beaucoup de gens, dramatique pour la personne et que ça touche, mais tout à fait banal qui arrive à beaucoup de gens. Et moi, pour que vraiment que cela se passe, pour que je le ressente vraiment bien, il faut que je l'écrive. Il faut que je l'écrive. C'est un peu... Et donc, c'est presque malgré moi, c'est... Si c'était possible, j'aurais pu faire autrement. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai envoyé déjà là, je triche, à mes éditeurs en leur disant... c'est pas pour être publié, c'est juste pour vous montrer un peu l'état des choses, là où je suis avec moi-même, pour vous montrer que si je ne publie pas, c'est pas parce que je n'écris pas, mais j'aurais pas tellement aimé, enfin, il suffit de dire ça à un éditeur hein, pour qu'il s'énerve. c'est des personnes de séduction, du moment qu'on ne veut pas, il veut. Et pour qu'il me dise, non seulement c'est à être publié, mais comme c'est là, c'est bon. Et parce que je pense je pense qu'il faut prendre des notes, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas publier, et je pense de plus en plus à quelque chose que j'appelle la part intime qui est en train de nous échapper. C'est-à-dire il faut que la fleur puisse fleurir sur un fumier, il faut des choses comme ça, des carnets qu'il faut. C'est des choses qui n'existent pas précisément dans la Caraïbe à cause de l'espérance de vie qui est si brève. On publie tout, on n'a pas le temps d'avoir ce temps perdu. C'est ça que j'avais admiré quand, enfant, adolescent, je lisais Proust. J'avais l'impression que le livre que je lisais cachait des tonnes de carnets, de notes, et que cette recherche que je lisais était le sommet d'une montagne de choses, et même si ce n'était pas les notes de Proust, mais d'une montagne de lectures qui sont toute la bibliothèque qui a amené jusqu'à Proust, que Proust n'a pas écrit La recherche du temps perdu. La recherche du temps perdu a été écrite par tous les livres qui se mettent l'un derrière l'autre, et qui sont depuis Huysmans, et puis tous les critiques d'art, enfin tout ça donnait cela, et que nous, on n'a pas le temps. On ne peut écrire que des livres qui sortent de nos tripes et qui ne peuvent pas être cachés, qui doivent... et tout le temps, disons, lancé sur la table et avec violence. Et je m'étais dit, comment faire pour arriver à cette aristocratie des lettres, c'est-à-dire le droit de gaspiller, le droit de ne pas faire. J'étais obsédé, adolescent, par cette façon-là. Que je voyais l'aristocratie, pour moi, c'était... des gens qui se réunissent et qui ne font rien, qui s'assoient au coin du feu, et qui fument, qui font un peu de conversation, qui boivent un peu de thé. Pour moi, c'est le sommet de l'art. Et les gens qui sont des artistes qui viennent, et qui font du bruit avec leur musique, leur poésie, et sont pour moi des arrivistes, des opportuns. Et là, je l'avais considéré comme, c'est ça, un truc d'opportun qui viennent faire du bruit quand on pouvait juste se tasser au coin du feu et puis siroter le temps qui passe. Et je savais que c'était impossible pour moi. C'est impossible. Tu ne peux pas, avec 50 ans d'espérance de vie, atteindre à une telle désinvolture. Donc voilà la raison de cet arrêt que j'avais fait. Mais je ne peux pas, je suis lié à travailler comme... voilà.
Je propose qu'on entende un extrait que vous allez nous lire, où on... Vous êtes d'accord ?
Oui, oui.
Ah, il y a quatre pages. Où on part d'une situation. On est un peu comme ça tout le temps dans le livre, où il y a des petites choses qui se passent, des réflexions qui viennent, des souvenirs. On passe dans toutes ces strates et ces manières de dire les choses, d'écrire les choses, et puis où on revient sur le thème de l'écriture à la fin du passage.
Mais je savais que ça allait être l'endroit que je déteste le plus.
Il fallait pas écrire.
Oui, oui, oui. Oui,
pas publier. Il fallait pas le montrer à un éditeur.
C'est plus scandaleux, je veux dire. Le vendeur de journaux qui se tient devant l'hôtel tente de me faire payer l'exemplaire au prix d'un abonnement mensuel. Je lui montre pourtant ma photo dans le numéro du jour. Sans ciller, il me refait le même prix exorbitant. Je lui arrache alors le journal des mains, tout en lui donnant 15 goudes. « C'est le prix que paient les gens qui vivent en Gaude, » jette-t-il. « Comment savez-vous que je ne suis pas d'ici ? » ?»« Vous êtes à l'hôtel. C'est mon affaire. Pour moi, vous êtes un étranger, comme n'importe quel autre étranger. Comment faites-vous ? Combien faites-vous payer ce qui passe dans les grosses bagnoles luxueuses ?» Il s'en va en grognant. Une chance que les vendeurs de journaux ne lisent que les grands titres, sinon on serait pris avec un cinquième pouvoir. Ce banal incident me fait boiter comme si j'avais un caillou dans le cœur. Est étranger, même dans sa ville natale, nous ne sommes pas nombreux à bénéficier d'un tel statut. Mais cette petite cohorte grossit de plus en plus. Avec le temps, nous serons la majorité. En grimpant la petite côte qui mène vers la place Saint-Pierre, je pense tout à coup à Montréal, comme il m'est arrivé de penser à Port-au-Prince quand je suis à Montréal. On pense à ce qui nous manque. Je suis entré par hasard dans la nouvelle librairie La Pléiade. J'ai connu à la fin des années 60 celle du vieux Lafontaine, toujours assis près de la porte d'entrée. C'était un homme affable, malgré des sourcils touffus qui lui faisaient un air bourru. Il ne parlait pas beaucoup. On allait directement au fond chercher les livres qui nous intéressaient, jamais plus d'un à la fois. On les choisissait dans la fameuse collection Maspero, mise à l'index par un pouvoir paranoïaque. Le vieux Lafontaine prenait quotidiennement des risques pour offrir autre chose que ses romans policiers et ses magazines insignifiants étalés sur une table à l'entrée. On calculait le prix et en passant près de la caisse, on déposait le montant exact sur le comptoir. Sans regarder derrière soi, on continuait son chemin jusqu'à la sortie. Toute l'opération doit se dérouler dans une fluidité absolue. On s'entraînait à la maison. On se retrouvait après, mes camarades et moi, dans notre petit restaurant, en face de la place Saint-Alexandre, chacun avec le livre qu'il venait d'acheter. On mettait tous les livres sur la table, puis on tirait au sort pour savoir qui lira quoi. Nos 20 ans étaient si sérieux qu'une fille a dû presque me violer pour que je comprenne ce qui se passait autour de moi. Celle qui écoutait les Rolling Stones à la radio était déjà passée à la révolution sexuelle quand on lisait encore Chine Nouvelle. On cherchait désespérément, dans les discours de notre idole Zhuang Lai, ce stratège sévère et élégant du parti, un parfum de femme, le soupçon d'une jambe ou une nuque duveteuse qui nous aurait fait faire des rêves érotiques. J'ouvrais alors les yeux autour de moi pour découvrir... C'est ça, c'est fini ? Ah bon. J'ouvrais alors les yeux autour de moi pour découvrir que nous étions un tout petit groupe à faire la révolution dans notre tête, nous contentant de commenter les essais politiques achetés chez le père Lafontaine. Les autres vivaient dans l'insouciance et ne s'en portaient pas plus mal. J'étais donc mûr pour de premières vacances intellectuelles. Mais voilà vivement attiré par tous ces types que je méprisais tant auparavant, ceux qui ne pensaient qu'à s'habiller, se parfumer ou qui savaient danser les slow des plateuses. Ceux qui n'avaient jamais ouvert un bouquin et qui ne s'en portaient pas plus mal. Ceux surtout qui ne s'intéressaient pas au cœur de ces princesses inaccessibles qui peuplaient nos rêves, mais à leur corps mince et souple dans des robes de samedi soir. Ceux dans les bras desquels défaillaient celles qui ne nous remarquaient jamais. Ceux dont le visage ensanglanté en première page du journal, ils finissent toujours dans un fatal accident de voiture de sport, est plus commenté au lycée des jeunes filles que le nouveau recueil de poèmes de Davertige. Le vieux Lafontaine a légué la librairie à ses deux filles, Monique et Solange, qui l'ont scindée en deux. Une librairie à Port-au-Prince, un peu plus grande que celle de Pétionville. Je converse un moment avec Monique, qui dirige la librairie de Pétionville. Elle me montre une jeune fille en train de feuilleter un de mes romans. Je reste fasciné par sa nuque. La nuque dévoile beaucoup d'une lectrice. Je vais donc dans la cour, sous l'arbre, pour éviter de la gêner si jamais elle se retournait et me reconnaissait. Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour à la Pléiade dans la position de l'écrivain. En marchant ainsi dans cet univers, la ville, les gens, les choses que j'ai tant décrits, je n'ai plus l'impression d'être un écrivain, mais un arbre dans sa forêt. Je prends conscience que je n'ai pas écrit ces livres simplement pour décrire un paysage, mais pour en faire encore partie. C'est pourquoi la remarque du vendeur de journaux m'a atteint si fortement. À Port-au-Prince, au début des années 70, j'étais journaliste, car il fallait dénoncer la dictature. Je faisais partie de la petite bande qui montrait les dents au pouvoir. Je ne me posais aucune question par rapport à moi-même, jusqu'à cette crise sexuelle à la toute fin. C'est en vivant à Montréal que j'ai pris conscience de mon individualité. À moins 30 degrés, on a tout de suite une conscience physique de soi. Le froid fait baisser la température. Dans la chaleur de Port-au-Prince, l'imagination s'enflamme si aisément. Le dictateur m'avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner, je passe par la fenêtre du roman.
Retourner au pays par la fenêtre du roman, c'est un des thèmes de ce livre, évidemment, puisque voilà, il y a cette fenêtre roman qui est sur la couverture, et il y a ce retour qui est là, qui est problématique, hein, qui est énigmatique, avec cette question qui est soulevée, qui est la question de, avant de passer au temps dont on a déjà commencé à parler, mais la question du corps, être étranger même dans sa ville natale, ça passe aussi par cette étrangeté d'être dans un corps qui n'est pas toujours au même endroit. C'est pas si facile que cela d'être au même endroit que son corps. Et ce retour, c'est problématique aussi à cause de ça. C'est-à-dire qu'on est dans deux endroits à la fois, on est de nulle part à partir du moment où on est parti, y compris physiquement.
Oui, c'est pire si on est écrivain. Et c'est normal, quand on vit dans un autre pays, de penser au pays qu'on a laissé. Et ce qui fait qu'on est, notre corps est à tel endroit et notre esprit est ailleurs. Mais quand on écrit encore, on essaie de doubler la situation. Et par exemple, cette phrase est devenue encore plus forte depuis la sortie de ce livre, puisqu'il est déjà à Port-au-Prince et on le lit. Et il faut imaginer que je ne suis pas encore allé depuis ce prix. Vous savez, les prix, ça donne une accélération de lecture, ça fait lire plus vite. Et je ne suis pas encore allé, mais j'imagine des gens, quelqu'un qui lit à Port-au-Prince, que le dictateur m'avait chassé dans la porte de mon pays pour y retourner. Je suis passé par la fenêtre du roman. Et la personne tient la fenêtre dans sa main et attend que j'enjambe cette fenêtre, ce que je vais faire d'ailleurs dans quelques jours. Et donc, ça veut dire que le livre, qui est un objet concret, physique, et tient un peu dans ses pages et tous mes fantasmes. C'est la représentation physique de mes rêves. Et donc, ce qui fait que pour un écrivain, c'est encore pire, cette situation d'avoir son corps à un endroit et d'avoir son esprit à un autre. Et les livres que j'ai écrits, puisque Être insulaire est un élan vers le voyage, les livres que j'ai écrits, les différents livres que j'ai écrits, c'est pour ça que je tiens à ce chiffre de 19 livres, c'est parce que chacun de ces livres m'a permis de voyager. Chaque fois que quelqu'un, quelque part dans le monde, s'intéresse à un de mes livres, j'apparais. La personne voudrait bien me voir si, et comme Florence, elle organise une manifestation culturelle, elle m'invite et j'arrive. Et pour moi, un livre, c'est fondamental pour quelqu'un qui vient d'un pays où toute ma jeunesse, toute mon adolescence et mon enfance, je l'ai passé à rêver de voyage. Je me souviens, j'entendais à la radio haïtienne chaque été, début d'été, qu'on annonçait, les agences de voyage annonçaient les prix des billets et les allers-retours New York, Montréal ou Paris. Et j'entendais ça comme une musique lointaine, extrêmement lointaine. Et parce que il faut deux choses pour quitter Haïti, l'argent pour acheter les billets et le droit de quitter qui ne peut vous être permis que par le dictateur. Et donc ça me faisait quelque chose de loin. Et finalement, je voyage, je deviens écrivain et je dois vous dire que depuis 25 ans, je ne pense pas avoir payé moi-même 3 billets d'avion, alors que je voyage au moins une fois par 2 mois, souvent 2 fois par mois. Et tout simplement parce que j'ai écrit. Alors pour moi, le quadrilatère que vous tenez en main est une fenêtre et je suis un peu comme le passe-muraille de... Marcel Aimé. Je traverse.
En fait, la véritable opposition n'est pas entre les pays, si différents soient-ils, mais entre ceux qui ont l'habitude de vivre sous d'autres latitudes, même dans une condition d'infériorité, et ceux qui n'ont jamais fait face à une culture autre que la leur. Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile, qui peut se révéler à la longue nocif pour le caractère.
Oui.
Ça vient en plus du rêve du voyage.
C'est une chose aussi qui vient... c'est une... pas une information, c'est une connaissance qui m'est venue avec le voyage. Et j'ai connu une condition qui est tout à fait moderne, qui s'appelle la condition de l'immigré. C'est extraordinaire. Et ça vous donne une posture intéressante pour voir le monde, et surtout quand vous la vivez dans une condition d'infériorité. Il n'y a de condition intéressante qu'une condition d'infériorité. Vous êtes obligé d'apprendre tout de suite, et puis si vous n'apprenez pas, vous allez payer très rapidement pour cela. Et vous arrivez dans un pays, et le pays se présente aux étrangers. Vous savez, moi, quand je viens à Paris, je suis souvent, depuis quelque temps, dans un des hôtels du quartier Saint-Germain, où mon éditeur Grasset, puissant éditeur de Paris, me met. Et ça veut dire que depuis moi qui étais, qui fus ouvrier une longue partie de ma vie, je n'ai pas vu depuis une quinzaine d'années un ouvrier à Paris. Je n'en ai pas croisé un. Et donc, ça veut dire que comme écrivain, j'arrive comme cela et je n'ai pas d'argent moi-même, mais je vis luxueusement. Et alors que à Montréal, j'ai commencé ma vie en voyant exactement les soubassements de la ville, ce que la ville veut cacher, ce que la ville, dans ses airs souriants, veut montrer autre chose. Et je vais directement au fin fond. J'étais ce qu'on pourrait appeler travailleur illégal. Il n'y a pas de situation en dessous. Un noir travailleur illégal venant d'un pays de dictature. Venant d'un pays de dictature veut dire que personne pour te défendre. Il n'y a personne pour te défendre. Et les gens sont au courant. Et autrefois, on aurait pu dire qu'on était fils de prince russe, mais hein, les informations ont circulé depuis. On sait très bien que si vous êtes là, c'est que là-bas, c'est pas bien. Et on peut plus raconter d'histoire. Et c'est intéressant. Moi, je me suis dit, et j'ai voyagé à 23 ans, naturellement, pour quelqu'un qui voyage avec sa famille, c'est plus embêtant et c'est une situation plus complexe, plus dure. Mais pour quelqu'un qui voudrait être écrivain, qui a 23 ans, qui arrive dans une ville, dans une condition difficile d'infériorité, qui sort des jupes de sa mère, de sa grand-mère, de ses tantes, c'est la condition rêvée. J'aurais dû payer pour aller à une pareille école. Voir des gens passer devant moi et qu'ils ne sachent pas que je suis un prince. C'est extraordinaire. Le prince caché. Le prince caché, qu'est-ce qu'il fait ? Il note. Il note et puis il finit par écrire. Voilà.
Mais c'est une situation qui change et qui disparaît. Parce que l'écrivain n'est plus dans la même position des années après. Il n'est plus dans cet état d'infériorité d'une certaine manière ou dans cet état de danger et ça pose aussi une autre énigme, celle de l'écrivain et de la position peut-être de l'écrivain. Par exemple, là, il y a une conversation avec un ami retrouvé, il y a beaucoup d'amis d'enfance retrouvés et des conversations qui se créent ou pas d'ailleurs. Et là, c'est une conversation avec Gary Victor, qui est ami et écrivain, autour des thèmes choisis par les grandes littératures d'un pays ou d'une région, et le peu de romans qui ont pour thème la fin. Il y en a beaucoup qui ont pour thème le sexe, par exemple. Et puis la fin, c'est presque... C'est rarissime. Alors que c'est très présent en Haïti. C'est vraiment, d'ailleurs, un des sujets du livre, la pauvreté et la fin. Et ce fait que, depuis très longtemps, l'écrivain n'a plus connu la fin. Alors, c'est aussi une autre sorte de dépaysement, d'exil et de distance avec ce qu'on a été, ce qu'on est, ce qu'a été son enfance.
Ah, je suis très content hein, de ne plus connaître la fin. Et je n'ai aucun remords à cela. Et moi, je n'ai jamais eu de remords. Je ne faisais pas tout à l'heure un éloge de la condition ouvrière ou de la vie difficile. Pas du tout. Je trouvais que c'était un mauvais quart d'heure qui était une bonne école. Ça m'a permis d'écrire, de faire des livres. Et ce qui m'a permis de faire des livres, c'est même pas la condition difficile, le fait de me lever tôt pour aller travailler. C'était le fait de n'être plus dans les jupes de ma mère, le regard des autres. Le regard des autres, quand ils vous regardent...
Oui, quand on voilà, il y a le mot l'individualité qui se forge.
C'est ça, l'individualité qui se forge, et le regard des autres, et quand ils vous regardent comme si vous étiez un mur lisse, et donc c'est extrêmement intéressant, et vous n'existez pas, et parce que j'existais sous Duvalier, on existe beaucoup sous la dictature, on ne voit que vous. Et parce que vous êtes pris en charge, vous êtes reconnu, identifié, chacune de vos pensées est analysée, commentée, jugée, punie souvent. Et donc c'est un surcroît d'intérêt et vos familles aussi vous protègent, donc vous êtes le centre si vous êtes quelqu'un un peu turbulent. Et là vous n'existez plus, et ce regard-là permet de pour moi, m'a permis de devenir un écrivain, de me forger quelque chose. J'ai le temps, c'est comme il vivait devant moi, et sans vergogne, sans honte. Il vivait devant moi, les gens vivent, ils peuvent se révéler devant moi, ils peuvent se considérer comme quelqu'un de très poli, de très gentil, et brusquement, et comme je n'existe pas, ils peuvent se révéler. Je suis comme si j'étais une chambre vide. Où les gens pouvaient se réfugier et vivre comme ils sont, vraiment. Donc c'est magnifique. Et c'est magnifique pour écrire. Donc ce n'était pas du tout la misère dont je faisais l'éloge. Et quand plus tard, j'ai pu gagner ma vie d'une certaine manière et manger mieux, et pour moi, c'était une victoire contre la dictature et contre la misère, contre la pauvreté. Je n'ai jamais vu ça comme une trahison. La trahison serait plutôt de trahir les sacrifices de ma mère, qui a beaucoup travaillé pour que je sois dans cette situation, c'est-à-dire que je sache lire et écrire, alors qu'on vivait dans la dictature. La trahison serait là. La trahison n'est pas du tout de me retrouver dans une société où je ne suis pas en danger, ni la trahison n'est pas du tout de me retrouver dans des conditions plus ou moins confortables. Donc j'ai jamais senti comme ça. Enfin, ça se voit dans mes livres, je ne suis jamais en train de faire un éloge de la misère et autre chose.
D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je trouve que ça, la pensée s'en rapproche. Il y a un petit passage, la chose la plus subversive qui soit, et je passe ma vie à le dire, c'est de tout faire pour être heureux à la barbe du dictateur.
Parce que pour être heureux à la barbe du dictateur, ça a l'air, le mot heureux a l'air quelque chose de très fainéant. Non, c'est une activité folle, parce que l'autre, il fait tout ce qu'il peut pour que vous soyez en condition, en état de demande, en état et de manque, et pour qu'il devienne votre père, Papa Doc. Et si, du moment que vous n'avez rien, vous avez encore lui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, il y a plein de gens complètement affamés qui n'arrêtent pas de le dire. Mais au moins, sous Duvalier, il y avait un ordre, même si c'était un ordre du crime. Et mais non, je ne veux pas de cet ordre-là. Non, il ne faut pas un ordre du crime. Il faut notre ordre, l'ordre qu'on rêve de faire, c'est-à-dire du bonheur. Et non, je ne suis pas d'accord, ni avec Duvalier aussi, quand il prétend, s'appuyant un peu faussement sur la négritude, vaut mieux un dictateur noir qu'un colon blanc. Non, ni l'un ni l'autre. On ne veut d'aucun de ces gens-là, ni colon blanc, ni dictateur noir. On veut vivre. On veut vivre et on est prêt à travailler pour cela. C'est-à-dire, ce heureux malgré à la barbe du dictateur, c'est beaucoup de travail. Et les gens qui regardent attentivement la société haïtienne verront le travail de ces gens dans la rue, ce fourmillement de gens avec une sorte d'énergie saine et qui essaie de rafistoler la vie et dans ses moindres détails pour que ce filet de sécurité puisse continuer à exister, parce qu'il y a un filet de sécurité. Ça peut tomber beaucoup plus bas. Les gens n'ont aucune idée. Hein. Ce pays où la santé, où les épidémies sont, pourront surgir à n'importe quel moment, on ne se dit jamais pourquoi il n'y a pas de guerre civile. Et c'est parce qu'il y a un filet de sécurité. Il y a tellement de gens qui retissent les liens sociaux, parce que le principe de la dictature, précisément, c'est de déchirer les liens sociaux pour faire en sorte que chien mange chien, que chaque personne croit que l'autre est un loup pour lui. Et qui lui saute à la gorge. Donc, il y a plein de gens qui essaient de retisser cela avec des petites valeurs, genre simplement dire bonjour aux gens que vous croisez, des petites choses comme ça, offrir un morceau de pain quand vous n'en avez pas vous-même, et qui essaient et qui fait qu'on n'est pas tombé jusqu'au bout, et qui donne l'impression, quand on va dans ce pays, qu'aux moindres petites choses, aux moindres petits renouveaux, à la moindre situation de sécurité, on a l'impression que Haïti va repartir encore. Regarde là, il y a deux ou trois écrivains haïtiens qui ont des prix, tout le monde commence à dire « est-ce que la littérature haïtienne refleurit ?» Mais c'est parce que le sol est bon. Et on n'est pas tombé jusqu'en bas malgré ce qu'on dit à l'étranger. Je déteste quand les gens disent à l'étranger « est-ce que c'est pas désespérant ?» Mais non, les 8 millions d'Haïtiens ne sont pas désespérés, on n'a qu'à les voir. Il court tout le temps en cherchant la vie. Et donc, on n'a pas le droit, même quand on n'y est pas, de désespérer pour eux. C'est scandaleux comme luxe.
Alors, Papa Doc, une petite phrase un peu un peu provocatrice peut-être, mais intéressante aussi, qui rejoint peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure. Papa Doc a introduit l'exil dans la classe moyenne. Chaque famille a son absent dans le portrait de groupe. Avant, un pareil sort n'était réservé qu'à un président qui venait de subir un coup d'État ou à un de ces rares intellectuels qui pouvait aussi être un homme d'action. Donc cette phrase, introduire l'exil dans la classe moyenne, c'est presque aussi là une école de vie qui est... disons que c'est les aspects bénéfiques peut-être de ces exils, le fait de pouvoir aller ailleurs, le fait de pouvoir en revenir, le fait de voir autre chose que son île qui est pour la majorité, alors là je lis un autre passage, pour la majorité des gens d'ici, l'au-delà est le seul pays qu'ils espèrent visiter un jour, mais il y en a certains qui partent forcés, contraints la plupart du temps, et qui voient du coup d'autres pays, qui voient du coup voilà, autre chose que juste l'au-delà qui est le seul pays.
Oui, c'est ça. Et brusquement, avant, c'était une classe sociale très riche qui voyageait, qui allait soit en voyage de noces ou bien envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. On a vu dans la littérature haïtienne, y a là Yves Chemla qui connaît bien cette littérature, et on a vu que tout, c'était des fils de riches qui allaient là, qui étudiaient dans les grandes écoles de France. Henri IV, ils étaient tous à Janson, et au lycée des oiseaux, enfin des trucs comme ça. Et en Angleterre et tout, et là brusquement, et puis souvent en France, et là brusquement avec l'arrivée de Duvalier, la névrose coloniale va être complètement achevée, et parce que l'exil va rentrer, c'est-à-dire une autre classe va voyager longuement avec l'exil, et ça va finir à la fin, et les paysans vont quitter aussi par tous les moyens, parce que le chemin est connu. Et on sait très bien qu'au-delà des mers, c'est pas un précipice qu'il y a. Et que les avions ne tombaient pas juste après la mer des Caraïbes, dans un trou, le triangle des Bermudes, c'est une plaisanterie. Mais ça a pris ces voyages massifs de gens qui ne retournaient pas. Et on n'a pas idée de cette un jour j'ai créé ça, de tous ces voyages qui se sont passés durant ces 60 dernières années. Et le point de vue du voyage dans la tête des gens, comment ça a commencé, comment ça a été vu, jusqu'à ce que maintenant c'est vu comme plus banal que de partir d'une ville de province pour aller à Port-au-Prince. Mais le voyage a été vu comme, vraiment, c'est la mort. Partir, c'est mourir, comme il disait. Et Papa Doc a introduit surtout l'Amérique dans la société haïtienne, la grande société haïtienne, pas celle d'une petite classe donnée plus riche. Et l'Amérique, avant, c'était une société quand même qui continuait et dans le rapport avec la France. Et en introduisant l'exil massif, et brusquement, les Haïtiens sont allés vraiment nombreux aux États-Unis, à New York, à Miami, à Boston, à Chicago, à Montréal, et habitent le continent d'où ils sont et éliminent la notion de Caraïbes. Et puisque ils sont sur le continent, les gens ne pensent pas, et comme on a parlé d'insularité, il n'y a pas de vision d'insulaire en Haïti, pour deux raisons. D'abord parce que la mer n'existe pas aux Haïtiens, après ils ne savent pas nager, et ils ne mangent pas de poisson. Si quelqu'un ne sait pas nager et ne mange pas de poisson, c'est qu'il n'habite pas près de la mer. Donc la mer n'existe pas, et ensuite le chemin est devenu si naturel, les gens... Vous savez, à Miami, les radios haïtiennes, il y en a à peu près une dizaine qui sont des postes, pas des postes de radio, mais des heures de radio. Eh bien, ils font la publicité de produits qui se vendent directement à Port-au-Prince. Ou à Miami, les gens font leurs achats. Il y a un moment à la radio haïtienne où l'on ouvre le micro aux gens de province qui appellent au téléphone et qui font... Et autrefois, on disait, bon, je salue Marie, que je n'ai pas vue depuis longtemps, j'espère bien le revoir avant de mourir. Maintenant, c'est Marie et la caisse de Maury que tu as envoyée. Joséphine l'a pris, est-ce que peux-tu m'envoyer du pain? Parce que là, il manque de pain. Là. Depuis deux jours, on n'a pas de pain. On dirait quelqu'un qui appelle son mari au bureau pour lui dire, rentre avec une pinte de lait. Et c'est à peu près, hein. Je n'invente pas et je ne gonfle pas la situation. Les gens font leur marché, D'ailleurs, ils le font directement puisqu'il y a des boutiques à Port-au-Prince où tu places les commandes et d'Haïti et puis les gens paient à Miami. Et avec Internet encore, là, vous voyez, c'est... Donc cette idée de deal, c'est, qui est une idée de truc fermé, n'existe complètement plus. Et ça, c'est grâce à la dictature, en fait.
Alors, il y a quand même, on va s'approcher de la fin de la rencontre, mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, la figure de la mère qui a attendu pendant 33 ans d'absence, et qui a vécu au quotidien cette absence en cochant tous les jours d'absence du fils sur le calendrier, et qui vit d'une certaine manière encore avec cette pensée que l'éloignement, c'est la mort. Et qui apprend aussi la mort du père, qui lui s'est aussi exilé, qui n'est pas réapparu depuis longtemps et qui était presque considéré comme mort. Cette relation entre absence et mort, je trouve que on l'a... et dans les yeux de la mère en particulier, on la retrouve très souvent, et en lien aussi avec ce qui est spécifiquement des Caraïbes, à savoir le vaudou, où il y a aussi de temps en temps des petites annotations comme ça. Je lis ce passage. « Ma mère m'a dit cet après-midi, sur le ton de quelqu'un qui se doute qu'on l'écoute, que les morts se promènent parmi nous. On les reconnaît à cette manière d'apparaître et de disparaître sans qu'on sache ce qu'ils étaient venus faire. » Donc, il y a ces esprits peut-être qui apparaissent, mais ça fait évidemment référence aussi aux exilés et à ceux qui reviennent. Ils sont là sans être vraiment là, comme dans une situation de mort-vivant parfois.
Oui, c'est vrai que l'absence est un thème qui me touche beaucoup. Et j'ai connu une première absence quand j'étais enfant, très enfant, dans l'enfance même, peut-être 6 ans ou 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'avais un oncle, mon oncle Robert. Et mon oncle Robert, et j'avais l'impression qu'il était parti depuis longtemps. Je m'étais imaginé qu'il était marin et qu'il avait me laissé. Je ne sais pas pourquoi j'avais entendu comme ça une conversation. J'étais un peu éponge, j'absorbais. Et ma grand-mère avait un couteau. Dès qu'elle le sortait, elle donnait l'impression que c'était un cadeau que lui avait envoyé son fils Robert, sûrement marin sur les mers. Et ça m'a pris des années avant de savoir que mon oncle Robert était mort à l'âge de 6 mois. Alors, bon, il était mon oncle parce que c'était le frère de ma mère, mais je n'avais jamais senti, parce que ma grand-mère n'a jamais parlé de lui en termes de quelqu'un de mort, et le mot « oncle » était si fort quand même, qu'il ne m'a jamais fait... enfin, on ne peut pas penser qu'on parle d'un enfant de 6 mois. C'est moi qui ai pensé que c'est un oncle qui lui a donné ce nom-là, à cause c'est le frère de ma mère, et comme on n'a jamais dit qu'il était mort, donc c'est mon oncle Robert, il grandissait, hein, il vieillissait. De l'autre côté, dans le cas de quelqu'un d'adulte comme ma mère, c'est très étrangement... et c'est très différent. Et mon père est resté dans sa tête le jeune homme qu'il était quand il a quitté Port-au-Prince, il avait peut-être 26 ans, et il n'a pas vieilli. Parce que ma mère n'a jamais vu de photo de lui et ne l'a jamais revu. Et elle vieillissait, et il lui était impossible à elle de continuer à avoir une relation charnelle, j'ai l'impression, même dans son esprit, dans ses fantasmes, avec quelqu'un dont elle a dit qui ressemble tant à son fils. Elle ne parlait pas de ressemblance physique avec moi seulement, elle parlait qu'il ressemble à quelqu'un qui aurait pu être son fils. Comme elle dit en montrant une photo où elle était avec lui, et elle a dit « J'ai l'impression que c'est mon fils. » Donc c'est impossible. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est l'homme de votre vie, et qui est parti, et bon, mettons, après 40 ans, vous commencez à avoir l'impression que vous ne pouvez pas avoir de relation avec quelqu'un qui ressemble à ça. C'est comme quand vous découvrez la photo de votre père très jeune, et vous sentez que c'est votre père, puisque vous l'avez connu plus tard, plus vieux, mais Et si vous n'aviez, s'il n'y a pas d'autres photos de lui de cet âge, vous avez l'impression que c'est votre jeune frère ou votre... Enfin, il y a quelque chose de très troublant. Et pour une femme, quand il s'agit de son homme, et c'est encore plus fort. Mais je reprends quand même pour finir cette conversation, si possible, la phrase, il y a quand même une différence fondamentale, et ce que je ne savais pas moi, entre la longue absence et la mort. Moi, je croyais que quand ça faisait des années qu'on ne voyait pas quelqu'un, à un moment donné, ça s'efface. Et cet effacement, cette disparition ne laisse plus de halo. Il y a que se confond avec la mort. Eh bien non. Et au moment même où la nouvelle de la mort est tombée, eh bien, la personne, au lieu de partir, réapparaît. Ce qui est totalement différent de quelqu'un avec lequel vous vivez et qui disparaît au moment de la mort. Mais quand quelqu'un vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui occupe votre esprit tout le temps, au lieu de partir, il réapparaît. Telle est la situation de cette femme qui se trouve être ma mère. Merci.
Et c'est aussi ça, et on va terminer là-dessus, qu'on a évoqué au début de cet entretien, ce rapport au temps. Et ce qui remonte finalement, et ce qui surgit, c'est pas un espace, c'est pas un lieu, mais c'est bien une époque et c'est bien un temps. Je vais lire ce passage, l'exil du temps, mais on le retrouve annoté aussi de différentes manières tout au long du livre. Et l'exil du temps est plus impitoyable que celui de l'espace. Mon enfance me manque plus cruellement que mon pays. Ce temps de l'enfance qui ressurgit dans ce voyage, ou deux époques. Alors on a parlé de la conjonction de deux lieux, Port-au-Prince, Montréal, et de la difficulté d'être dans deux lieux à la fois. C'est la même chose, mais en pire, je dirais, en plus complexe encore, avec ces deux temps.
Oui, tout à fait. Et je l'ai écrit aussi pour rappeler à certains lecteurs hors d'Haïti que les Haïtiens ne sont pas devenus des chiffres PNB, PIB, et que nous ne sommes pas des enfants de la dictature, nous sommes des gens qui ont eu une enfance et une adolescence, et que cette aventure humaine dans le temps se vit aussi, même si l'espace est contraignant, difficile, c'est l'espace de la dictature, et que cela n'empêche pas la rêverie sur le temps.
Ce n'est plus l'hiver, ce n'est plus l'été, ce n'est plus le nord, ce n'est plus le sud, la vie sphérique, enfin. Je voulais terminer là-dessus parce que hier, pendant la première rencontre, Roland Brival a dit que voilà, c'était un parcours en cercle que pouvaient vivre les insulaires, qu'ils soient chez eux ou ailleurs.
Tout le monde.
Et tout le monde, tout et justement, monde, et généraliser ça.
Surtout pas se distinguer. Nous sommes dans cette foule humaine. Et le moindre effort pour se distinguer fait de nous des monstres. Tout le monde vit ça. Nous sommes pris en cet espace-temps qui se retrouve entre naissance et mort. Et nous avons à nous débrouiller pour que cela soit bien pour nous et ceux qui nous entourent. Et quel que soit ce qui arrive, c'est-à-dire que ce soit une dictature sur le chemin, l'exil sur le chemin ou la condition d'infériorité, et nous devons répondre seuls de notre situation. Si ça fait de nous des bêtes qui tuent les autres, eh bien nous sommes des monstres qui tuent les autres. Et il n'y a pas de situation du fait qu'on ait souffert qui peut défendre une condition de monstre. C'est-à-dire Duvalier ne peut pas expliquer comme il l'a fait dans son poème « Les sanglots d'exilés » qu'il tue ses congénères parce qu'il a été humilié. Et nous sommes tous pris à nous débrouiller dans cet espace-temps, et pas plus ni moins que les autres, et quelle que soit notre fortune.
Merci Daniel Laferrière. retour, mais de toute façon, restez, parce que la conversation va se poursuivre un petit peu avec Dany Laferrière, qui va rester un petit peu, je pense, avec nous et Eduardo Manet, pour la table ronde suivante, l'île entre paradis et prison. Malheureusement, je crois, sans Ananda Devi, qui est souffrante, sauf si elle est là. Eduardo Manet est là, par contre, mais Ananda Devi n'est pas là. Merci.